dimanche, les millions de personnes qui défilaient dans Chareza scandaient tout le long du cortège « Allah est grand » et toutes sortes de slogans politico-religieux. On a aussi crié « Mort au chat ! Le chat doit partir, le chat est un usurpateur et vive Khomeini !»
Ans d'histoire. Il y a 30 ans, le 1er février 1979, ils étaient 4 millions dans les rues de Téhéran à attendre l'ayatollah Khomeini de retour dans son pays après avoir passé 14 ans en exil. Depuis plus d'un an, des centaines de milliers d'hommes et de femmes défilaient dans les rues de toutes les villes d'Iran en criant son nom et en brandissant son portrait. À Qom, à Tabriz, à Ispahan, à Yazd, à Machad et à Téhéran, où le 8 septembre 1978, l'armée avait tiré sur la foule, provoquant la mort de plusieurs centaines de manifestants. En un an, l'ayatollah Khomeini avait rassemblé derrière son nom toutes les oppositions au régime du Shah d'Iran. Les nationalistes qui lui reprochaient d'être inféodé aux Américains, les libéraux qui réclamaient la démocratie, les communistes, les commerçants du bazar et les paysans, et surtout le très puissant clergé chiite qui voulait la mise en place d'un nouveau régime fondé sur les grands principes de l'islam. Une révolution sans équivalent dans l'histoire et qui, le 16 janvier 1979, avait provoqué le départ du Shah d'Iran.
Quelques mots où deux seuls journalistes iraniens présents, et c'est le départ, l'empereur et Farah pleurent. Une demi-heure après, c'était le délire à Téhéran. Écoutez. Des millions de portraits de Khomeini sont brusquement sortis de je ne sais où pour être affichés sur tous les murs de la ville.
Il se peut que le Shah ait pleuré en quittant l'Iran, peut-être pour toujours. Mais la joie se lit sur les visages des manifestants qui ont envahi par milliers les rues de la capitale pour fêter le départ de l'homme qu'ils haïssent depuis si longtemps.
Bernard Orcade, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était il y a 30 ans un événement dont vous avez été le témoin sur place, la fin d'un régime monarchique plusieurs fois séculaire et l'avènement de la République islamique, une révolution que l'on retrouve dans un livre que vous avez écrit avec Yann Richard et Jean-Pierre Digard, l'Iran au XXe siècle. Mais en 1979, ce n'était pas seulement l'histoire de l'Iran qui basculait, c'est celle de tout le XXe siècle, car cette révolution n'était pas une révolution comme les autres, elle a eu des conséquences internationales considérables, Bernard Orcade.
Oui, et peut-être qu'on s'est trompé de révolution. À l'époque, on s'imaginait que c'était un coup d'État, un religieux qui serait là pour quelques jours, qui prendrait le pouvoir. Et en fait, peut-être, c'est là que commence le XXIe siècle, qu'on assiste à Téhéran à la première révolution post-soviétique, post-communiste. Tout le monde pensait que derrière le turban de Khomeini, il y avait une étoile rouge et que le complot des religieux n'était jamais qu'un complot associant un peu tout le monde, tous les opposants de briques et de broc contre les Américains qui contrôlaient le pétrole du golfe Persique et le Shah qui était un fantoche. Tout le monde croyait que c'était une révolution communiste et en fait c'est une révolution d'un type tout à fait nouveau qui a marqué la fin du XXe siècle et peut-être en train de marquer le XXIe.
Et qui a inspiré d'autres révolutionnaires partout dans le monde musulman. Comment expliquer la chute d'un régime qui était considéré jusque-là comme un des plus solides de la région, Bernard Orcade?
Des plus solides, mais il faut bien dire aussi qu'il y avait des moyens d'être solides avec une armée très forte, soutenue par les États-Unis. Et c'était non pas une colonisation, parce que l'Iran n'a jamais été colonisé au sens strict du terme, ni par les Anglais, ni par les Américains, mais un pays très fortement soutenu par les puissances occidentales. Sachant que l'Iran était sur un pays frontière de l'Union soviétique, près de 2000 km, l'Iran était la garantie que le pétrole du golfe Persique serait un pétrole qui restait aux mains des pays occidentaux, et dont l'Iran était vraiment le gendarme du golfe Persique.
Un pétrole iranien aussi, c'est même un des premiers pays de la région où il a été exploité.
Il a été exploité, le premier d'ailleurs de la région en 1908, mais aussi le premier pays où le pétrole était nationalisé à l'époque de Mossadegh. Et donc il s'agit pour tous les pays occidentaux, comme un peu aujourd'hui, de faire en sorte que cette région reste stable et reste entre les mains des pays occidentaux pour pouvoir assurer l'exportation des richesses hydrocarbures. Donc le Shah était, et en même temps, n'était pas simplement quelqu'un de protégé artificiellement par les Américains, c'est quelqu'un aussi qui avait su faire des réformes, qui avait su moderniser le pays, l'ouvrir à la mondialisation, le terme n'était pas à l'époque celui-là, mais à faire un pays, tel de l'Iran, un pays moderne, un pays qui s'ouvrait sur le reste du monde, ce qui évidemment provoquait des tensions et provoquait des ruptures.
Un pays moderne sur le plan économique, mais un pays un peu rétrograde, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le plan politique. Ce que lui reprochaient ses adversaires, Bernard Hourcade, c'était aussi l'absence totale de démocratie et même un régime extrêmement dur, s'appuyant sur une armée, sur une police redoutable aussi, la fameuse SAVAK.
Tout à fait. Et c'est justement ça un petit peu qui est le paradoxe de la révolution iranienne. Le Shah a été limogé, peut-on dire, par ses enfants. Dans les années 1960, le Shah a fait la révolution blanche. Il a donné le droit de vote aux femmes, a multiplié les universités, fait la réforme agraire, donc mis le pays enfin sur la voie de la modernité. Mais ces gens-là demandaient simplement d'aller un peu plus loin. Ils ont reproché au Shah de ne pas aller assez loin, de ne pas avoir la capacité d'aller plus loin. Ils demandaient un petit peu de démocratie. Et donc, le Shah disait, mais si je fais la démocratie, il y aura 10 députés communistes au Parlement. 10 sur 200, ce n'est pas très important. Et donc, ce sont ces gens-là, cette bourgeoisie moyenne créée par le Shah, qui étaient des libéraux, des gens de gauche comme à l'époque, des tiers-mondistes, des religieux, qui ont dit au Shah, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de cette logique? Donnez-nous de la démocratie, donnez-nous un peu de liberté. Vous avez donné une liberté économique, intellectuelle. Allons jusqu'au bout du challenge.
Oui, parce qu'elle n'existait pas. Il avait créé un parti unique, il n'y avait pas de parti de véritable opposition autorisée, un parti unique qui s'appelait le Rastariz. Il y avait donc cette police politique redoutable, l'utilisation, la pratique de la torture, tout ça justifié et soutenu d'ailleurs par les États-Unis jusqu'à ce qu'arrive au pouvoir à Washington un président très attaché aux droits de l'homme qui était le président Carter.
Tout à fait. Le Shah, effectivement, n'a pas su gérer la dynamique qu'il a donnée à son pays. Il n'était pas à la hauteur de la situation, en quelque sorte. Il soignait cette image de prince éclairé, ce despote éclairé. Mais au XVIIIe siècle, Frédéric II de Prusse était bien peut-être, ou Catherine II de Russie. Au XXe siècle, il fallait à l'Iran quelqu'un de plus fort. Et le Shah, effectivement, utilisait la police, la SAVAK, la répression comme seul moyen pour contrôler, alors qu'il avait toute une population qui ne voulait que s'exprimer. Et l'arrivée de Carter, effectivement, a changé les règles du jeu, puisque Carter n'acceptait plus à ce moment-là que l'on mène l'Iran uniquement la baguette. Il prenait en compte les Iraniens, les droits de l'homme. Et là, les règles du jeu ayant changé entre l'Iran et les États-Unis, le Shah était un peu perdu, il a perdu ses repères. Et la catastrophe où la révolution est arrivée.
Et il avait fédéré contre lui, entre-temps, toutes les catégories mécontentes, justement, de sa politique, et tous les partis politiques, les communistes du Toudé, les nationalistes, et puis le clergé chiite, et sa figure de proue, l'ayatollah Khomeini, qui en exil, en Turquie, en Irak et en 78 en France, allait profiter des émeutes qui allaient le porter au pouvoir en 1978.
Décembre 78, 5 millions de personnes dans les rues de Téhéran pour la célébration de l'Ashura, une grande fête islamique, mais aussi une manifestation monstre, une de ces manifestations de masse comme le pays n'en a jamais vu, à l'appel d'un homme dont le nom se répercute de ville en ville, l'ayatollah Khomeini. Un vieillard frêle de 78 ans, sa volonté est inflexible, il est le personnage le plus vénéré aujourd'hui en Iran. Réfugié depuis quelques mois dans la petite ville de Nofle-le-Château, à l'ouest de Paris, 4 fois par jour, il quitte sa villa, traverse la rue pour aller prier en face, dans une mosquée, improvisée sous une tente. Le reste du temps, il téléphone, reçoit un flot de visiteurs.
Une fois le Shah parti, qui gouvernera l'Iran? Vous? Ou bien est-ce que vous participerez à un gouvernement?
Non, ce ne sera pas moi. On choisira un conseil, et dans ce conseil, il y aura un parlement élu au suffrage universel. En fait, c'est ça qui va décider du sort du pays, du sort de l'Iran.
Et c'était un reportage de Serge Misrahi pour TF1 en janvier 1979. L'ayatollah Khomeini, on vient de l'entendre, était à Nofle-le-Château. Il était en exil déjà depuis une quinzaine d'années, depuis 14 ans exactement, chassé de l'Iran en 1964 par le Shah. À l'époque, ce n'était pas un personnage très important, c'était un chef religieux, un ayatollah parmi d'autres. Et pourquoi l'est-il devenu au fil du temps jusqu'à devenir l'incarnation au fond de la révolution qui s'est déclenchée en 1978, Bernard Hourcade?
Justement, dans les années 60, Khomeini s'était opposé à la révolution blanche du Shah et à ces mouvements démocratiques ou développement pour multiples raisons qu'il est trop long d'évoquer ici. Mais il voulait surtout rompre avec le quiétisme, avec l'attentisme du clergé chiite. Les chiites, traditionnellement, sont des conservateurs qui ne bougent pas et acceptent, en courbant les chines, que les mauvaises années passent. Il a dit aux religieux, non, nous ne pouvons pas accepter n'importe quoi, il faut se révolter. N'acceptons pas n'importe quoi du régime du Shah. Et donc, ce religieux-là a été un peu exclu et par le Shah et par ses collègues religieux de Rome qui n'aimaient pas ce jeune religieux qui a été Fayatollah à ce moment-là.
Rome, la ville sainte.
La ville sainte, oui, qui est un peu le Vatican de l'Iran. Il a été expulsé par le Shah, mais aussi par ses collègues qui n'aimaient pas ce jeune religieux qui faisait de la politique. Les chiites ne font pas de politique. Et donc, Khomeini est parti en Irak. Et là, il a retrouvé tout le réseau. On était dans les années 60, c'est le tiers-mondisme, c'est l'indépendance de l'Algérie, c'est la guerre du Vietnam qui va commencer. Donc, on est dans des années où les révolutionnaires ont tout un réseau international. Et donc, Khomeini va être en contact avec les Palestiniens, va être en contact avec les révolutionnaires du monde entier, pas lui directement, tous les gens qui gravitent autour de lui. Et donc, lorsque des années plus tard, le Shah va vaciller, il y aura tout naturellement autour de Khomeini un certain nombre de gens, des libéraux, des communistes, des tiers-mondistes, qui vont dire, tiens, on a un contact avec des milieux religieux. Et en Iran, on ne peut rien faire sans les milieux religieux. Les intellectuels de gauche sont combien? Quelques centaines. Les communistes, quelques dizaines. Ce n'est pas avec ça qu'on fait une révolution dans un pays de 40 millions d'habitants. Il nous faut la masse des gens. Et Khomeini faisait cette jonction un peu floue, un peu ambiguë, entre la gauche, la droite et les religieux traditionnels.
Et puis, donc, représentant un clergé, très mécontent quand même de la politique du Shah, vous le disiez, Bernard Houkat, très laïque. Voilà un homme qui, en 71, célébrait le 2500e anniversaire de la monarchie, du temps de Cyrus, à Persépolis, c'est-à-dire faisant référence à tout autre chose qu'à l'Iran musulman tel qu'il était devenu.
Tout à fait. Le Shah était, dit-on, personnellement très religieux, mais sa politique est extrêmement anticléricale. Et pour lui, les mollahs, comme il disait, les religieux étaient des gens qu'il fallait mettre dans les mosquées et rester dans les mosquées. Et donc, il s'entendait assez bien avec eux, à condition qu'ils restent dans les mosquées, et trois ou quatre vieilles femmes qui fassent la prière le soir, et c'était fini. Et il n'était évidemment pas du tout d'accord avec toute la tradition qu'il y avait de contestation du clergé chiite. Parce que traditionnellement, dans l'histoire de l'Iran, le clergé qui était proche du peuple, qui connaissait le peuple, le clergé protégeait le peuple iranien des oukases, des souverains. C'est la tradition chiite, cela. Et donc, il était logique que le Shah et le grand ayatollah soient face à face, représentent deux logiques différentes.
Mais le Shah, qui a contre lui tous les autres partis, vous le disiez, le parti communiste Today, les nationalistes, avec des gens comme Mehdi Bazargan, Shapour Bakhtiar, les moudjahidines du peuple, bref, il ne peut compter pratiquement que sur son parti unique et sur l'armée avec laquelle il allait réprimer très brutalement les manifestations qui allaient se succéder pendant toute l'année 1978.
Tous les jours, on enterre des dizaines et des dizaines de victimes tuées au cours des émeutes. À Mashhad, les blindés ont même roulé sur la foule, franchissant ainsi une nouvelle étape dans l'escalade de l'horreur. Partout dans le pays, les hôpitaux sont bondés. À la morgue du grand cimetière de Téhéran, où nous avons pu pénétrer, nous avons vu des dizaines de cadavres, des hommes jeunes pour la plupart, tués par balles. À Mashhad, la foule n'a pas reculé devant les blindés. Cela pourrait aussi se produire à Téhéran, qui est presque totalement paralysé par la grève générale et où le climat n'a jamais été aussi explosif. C'est au cimetière de Téhéran, l'unique sanctuaire où l'armée n'a pas encore osé pénétrer, que se tiennent maintenant les meetings de la véritable opposition, celle qui refuse tout compromis avec le Shah.
Et c'était une des manifestations qui, en 1978, allait ébranler le régime du Shah avant de le faire tomber en 79. Manifestations qui ont commencé en fait par un article injurieux contre l'ayatollah Khomeini.
Tout à fait. C'était le ministre de l'Information de l'époque qui, voyant qu'il y avait à Rome et dans les milieux religieux une certaine agitation libérale, tiers-mondiste, a fait un petit article extrêmement injurieux contre Khomeini, qu'il considérait comme inexistant, mais donc il pensait qu'il n'y aurait pas de réaction. Et contrairement à ce qu'il attendait, il y a eu effectivement une réaction à Rome en disant « c'est un scandale, on n'a pas le droit d'insulter un ayatollah comme cela ». Et toute cette opposition tiers-mondiste s'est cristallisée peu à peu. Et manifestation à Rome qui a été réprimée, et le deuil chiite, c'est de 40 jours en 40 jours. Après les manifestations de Rome, c'est à Tabriz. Ne pas oublier que les gens de Tabriz sont très nombreux à Téhéran. C'est comme un petit peu les Auvergnats de Paris, si vous voulez, dont les Azéris de Téhéran, en 40 jours après, à Téhéran, ont manifesté pour les 40 morts de Tabriz, et ainsi de suite, de 40 jours en 40 jours. Ces manifestations, qui sont traditionnelles en Iran, ont pris une coloration religieuse, alors qu'elles étaient au début des manifestations plus politiques et plus tiers-mondistes, simplement. Et donc, cette alliance entre les libéraux, la gauche, les religieux s'est faite dans le cadre très pacifique de ces manifestations. Il n'y a pas eu des milliers de morts à la Révolution. À chaque manifestation, c'était 20, 30, 40, 50 morts. Ce qui, désolé d'être un peu cynique, mais ce n'est pas beaucoup par rapport aux centaines de milliers de personnes qui manifestaient. L'armée n'a pas tiré dans le tas. Le Shah savait que Carter était là, il n'avait pas l'autorisation de tirer dans le tas. Et donc, ces morts ont été symboliques. Il y avait 40 morts, 50 morts, 100 morts. Et qui ont servi de ferment à ces deuils de 40 jours en 40 jours, où la population s'est sentie un peu humiliée par cette répression du Shah.
Oui, cette espèce d'engrenage incroyable. Il y a des morts à une manifestation, 40 jours plus tard, on manifeste ailleurs, et également le Shah fait tirer dans la foule, ou en tout cas, il y a des morts, et on commémore leur disparition 40 jours plus tard. Tous les 40 jours, dans une ville différente, ou dans toutes les villes en même temps, il y avait cette espèce d'engrenage, répression, manifestation, qui a fini par faire vaciller le Shah, d'autant plus qu'il y a un élément qui a évidemment galvanisé les manifestants, qui les a rassemblés aussi tous derrière les religieux et derrière le nom de l'ayatollah Khomeini, c'est l'ayatollah lui-même qui de Naufle, le château où il se trouvait. Vous pouvez peut-être expliquer d'ailleurs pour quelle raison il se trouvait en France à ce moment-là, Bernard Ourcade.
Oui, en fait, Khomeini au début était strictement inconnu des Iraniens. L'Iranien de la rue ignorait absolument qui était ce bonhomme qui était parti à Najaf. Les événements de 64 étaient trop loin. Il est revenu sur la scène à l'occasion des manifestations du mois de septembre, octobre, novembre, quand justement il est arrivé à Neuf-le-Château. On pensait qu'au mois de septembre, c'est le mois du Ramadan, et que le Ramadan serait l'apogée de cette manifestation contre le Shah. Et effectivement, elles l'ont été. Et Khomeini, à ce moment-là, a commencé à rentrer dans le jeu. Et depuis Najaf, il a envoyé des cassettes. La révolution iranienne a été faite par la nouvelle technologie. Les mini-cassettes, à l'époque, on écoutait de la musique rock, mais on écoutait aussi les discours de Khomeini, qui étaient polycopiés et multipliés ici par ses amis. Et donc Khomeini a commencé à diffuser cela depuis Najaf. Saddam Hussein, qui était au pouvoir à cette époque-là à Bagdad, a peu apprécié que ce religieux en exil politique s'agite. Il y a beaucoup de chiites, ils sont majoritaires en Irak. Donc il a voulu s'en débarrasser. Il l'a envoyé vers Koweït. Les Koweïtis n'ont pas du tout envie d'avoir Khomeini. L'Algérie n'était pas non plus une bonne solution. Et comme on pouvait venir en France sans visa, M. Roula Mostafavi, c'est son nom, d'état civil, est arrivé un beau soir à Orly avec sa femme et son fils. Et il est devenu en touriste à Paris, accueilli par Bani Sadr et Ahmad Salamatian, qui ont été ses premiers compagnons d'armes et qui ont trouvé finalement les moyens de se loger par un ami qui avait une villa à Neuf-le-Château près de Paris. C'est donc comme ça, par hasard, que Khomeini s'est installé là et a commencé par ses discours et ses cassettes surtout, par la radio, à prêcher une révolution et à se faire connaître en Iran, où il était très peu connu.
Oui, donc c'est à la fin de l'année 78 que véritablement il devient l'incarnation au fond de cette révolution et de cette révolution de plus en plus sanglante. En septembre, c'est le Vendredi Noir, là il y a eu à Téhéran énormément de morts, ça a été peut-être l'apogée de la répression par le Shah d'Iran de ces manifestations et le début aussi d'un retournement parce que des États-Unis, on lui reproche cette violence, elle est très médiatisée dans le monde entier, on voit les images de ce qui s'est passé et à ce moment-là, le Shah fait mine de faire machine arrière. Il dissout son propre parti, il promet la démocratie et il nomme un premier ministre libéral qu'il avait mis en prison naguère, Shapur Bakhtiar, en espérant ainsi que la situation se calme.
Exactement. Le Shah est perdu à ce moment-là. Le dernier jour du Ramadan, je suis par hasard arrivé à Téhéran ce jour-là, la veille au soir. Et ce premier jour, le dernier jour du Ramadan 1978, au mois de septembre, pour la première fois, l'armée a refusé de tirer sur les manifestants et les manifestants ont donné des glaïeuls, ce n'est pas la révolution des œillets, des glaïeuls à l'armée. L'armée a pactisé avec les manifestants et c'était inacceptable. C'est pour cela que 8 jours plus tard, le Shah a ordonné de tirer sur les manifestants pour bien montrer la limite. Le Shah n'accepte pas le mouvement. Et c'est à ce moment-là que c'est Carter qui est au pouvoir. Et Carter n'accepte pas ce jeu-là. Et donc, à la fois, les Américains ne savent pas comment faire avec cette révolution qu'ils craignent de devenir communiste, et le Shah ne sait pas comment faire. Et trop tard, il prend Chapour Bakhtiar, après avoir pris un général incapable de remener la paix. Et on se retrouve donc avec des acteurs qui n'ont pas de pièce de théâtre à jouer, ils ne savent pas quelle pièce jouer, ni les Américains, ni le Shah, ni Chapour Bakhtiar.
Et trop tard pour que le Shah évite de partir. En fait, c'est Chapour Bakhtiar, je crois, qu'il lui a recommandé de partir soi-disant en vacances. On l'a entendu, c'était le 16 janvier 1979. Et quelques jours plus tard, c'était le retour triomphal de l'ayatollah Khomeini, accueilli à Téhéran, France Inter, Yves-Paul Vincent à Téhéran, donc le 1er février 1979.
Dans ce mur de foule, la Range Rover de l'ayatollah Khomeini cherchait à se frayer un chemin. Elle le faisait avec d'énormes difficultés en procédant par bonds successifs de 2 mètres. Et j'ai vu, à 2 reprises au moins, mais il y a eu sans doute d'autres incidents de ce genre, un homme âgé et un enfant, happés par le capot, roulés sous les roues du véhicule. Khomeini, tassé sur le siège avant droit, saluait sobrement des mains, et lui qui n'avait laissé percer aucun signe d'émotion ou de joie en descendant l'échelle de coupé du Boeing 747 d'Air France, je l'ai vu pour la première fois depuis longtemps changer de masque et sourire.
Extraire ce retour de Khomeini après 14 ans d'exil, il arrive, il rentre à Téhéran, et vous étiez présent, Bernard Orcal, de souvenir que vous avez de cette manifestation immense, je crois qu'il y avait 4 millions de personnes.
C'est absolument incroyable. Mais pour tout dire, ce sont les manifestations de novembre de Assoura et Tachoura qui ont été les premières grandes manifestations où 3-4 millions de personnes se mettent dans la rue de façon pacifique, qui ont fait tomber le Shah. Et on s'est dit à ce moment-là que rien n'était possible contre ce mouvement-là. Et donc, quand Khomeini arrive quelques mois plus tard, en février, la foule qu'il y avait, disciplinée, compacte, attendant quelque chose, après des mois et des semaines de difficultés, était quelque chose d'absolument inoubliable. Et mon ami Yann Richard, avec qui on écrit ce bouquin, on s'est retrouvé par hasard dans la foule ce jour-là. Il y avait 4 millions de personnes et on s'est retrouvé à ce moment-là par hasard. C'était un événement absolument incroyable qui a marqué ma propre vie, puisque je suis, depuis ce moment-là, avec plaisir, versé dans les affaires iraniennes et l'histoire de l'Iran. On a constaté à ce moment-là qu'il y avait une véritable révolution qui s'était passée. Le Shah était parti, le Shah était mort, il n'existait plus. Il y avait quelque chose de populaire qui se passait, mais on ne savait pas encore quoi, parce que Khomeini, on ne le connaissait pas. On ne savait pas s'il riait ou s'il ne riait pas. On ne savait pas quel serait son
gouvernement. Il était impassible, paraît-il.
Impassible. C'est un personnage dur, un personnage difficile, un peu énigmatique. On ne savait pas qui il était. Et on savait surtout qu'autour de lui, il y avait une unité de l'opposition, mais aucun programme politique réel. Et donc, il y avait à la fois un immense espoir et une grande inquiétude aussi.
Il y a aussi quelque chose d'important, on vient de l'entendre dans ce reportage, mais il y en a eu beaucoup d'autres, une révolution suivie intégralement dans le monde entier. Il n'y a pas que vous qui étiez le témoin, mais à des milliers de kilomètres de là, on a vu cette foule délirante à l'arrivée de Khomeini, Bernard Orcal. C'était important, le rôle de la radio. Il y avait des cassettes, vous les avez expliquées avant, mais la radio, la télévision qui était là.
C'est, je crois, la première révolution en direct à la radio, puisque tous les correspondants étrangers étaient là, américains bien évidemment, mais aussi français, et la BBC. La BBC a joué un rôle essentiel, la BBC en persan, a joué un rôle essentiel pour refaire ce reportage et pour, dès les manifestations de l'époque des 40 jours en 40 jours, c'est par la BBC qu'on apprenait les choses. Et donc, c'était une des premières connexions entre radio et événements politiques. Et c'est comme cela que les Iraniens qui étaient au fin fond de l'Iran, l'Iran est un grand pays, ça fait 2,5 fois la France, c'est un vaste pays, tous les Iraniens d'Iran ont communié avec ce qui se passait à Téhéran, via la radio nationale iranienne, mais qui était en grève, mais surtout via la BBC, qui transmettait en direct les événements de Téhéran.
Et une révolution inédite, on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent, ces gens-là. Pour la première fois, quelque chose qui échappe totalement à la logique de la guerre froide. Elle n'est ni favorable aux Américains, bien sûr, elle est même hostile, elle n'est pas non plus pro-soviétique, on est en dehors du cadre traditionnel des relations internationales à l'époque, donc personne n'y comprend rien, voilà des religieux qui arrivent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont en faire ?
Tout à fait. Mais l'erreur magistrale et qui fait que cet événement a au début été mal compris. On n'a pas pris la révolution iranienne au sérieux. On a dit c'est une révolution de religieux, ça va passer dans 15 jours, les gens vont revenir au pouvoir, ça va s'arrêter, il y aura un coup d'État contre le Shah. On pensait que c'était une révolution communiste aussi. C'est pour cela que tout le monde s'arc-boutait là-dessus. Jusqu'au moment où on a constaté effectivement en Europe occidentale, en France et aux États-Unis, que le meilleur rempart contre le communisme était peut-être Roménie, puisque les religieux sont anticommunistes. Et donc la meilleure façon de faire cette révolution n'aille pas vers le communisme, qui était fort, le parti Toudé communiste était fort en Iran, les Moudjahidines, les Fayyidines du peuple étaient forts, pour éviter qu'elle ne devienne une révolution marxiste, ils ont laissé faire le parti religieux. Mais personne n'était incapable de dire ce que ça allait devenir.
En tout cas, ça devient très vite, on s'en est vite rendu compte, une révolution violente.
J'ai été le témoin ce matin d'une exécution sommaire à quelques dizaines de mètres de la radio. Sur des indications de la foule, un homme a été désigné à un milicien comme appartenant à la SAVAK. Au moment où il s'apprêtait à monter dans une voiture, le milicien s'est approché de lui et calmement l'a exécuté à bout portant au moment précis où arrivait une ambulance. Plusieurs commissariats de police sont tombés aux mains des manifestants. Des témoins ont vu un dépôt d'armes investi par plusieurs centaines d'hommes. Les militaires qui en assuraient la protection l'ont apparemment ouvert aux manifestants et on a vu les armes, mitraillettes et mitrailleuses, sortir en pièces détachées par centaines. Les événements se déroulent à une telle rapidité qu'on a ici le sentiment que personne n'en contrôle le cours.
Et c'était le 11 février 79, 10 jours à peine après le retour de Roménie. On se rend bien vite compte que, comme dans toutes les révolutions, évidemment, il y a une épuration, elle était assez violente. On s'est rendu compte aussi que l'espèce d'union nationale qui s'était faite contre le Shah va se disloquer, que c'est la rue, en fait, qui, au début, en tout cas, domine les événements, ce qu'on appellera bientôt les gardiens de la Révolution, le conseil de la Révolution, le guide de la Révolution, Roménie, bien sûr, au-dessus des institutions démocratiques qui vont être mises en place par la Constitution de 1979, car c'est très particulier, il y a à la fois le retour du suffrage universel et en même temps un pouvoir qui échappait et qui échappe encore au suffrage des Iraniens, puisque c'est le guide suprême qui décide de tout encore aujourd'hui.
Tout à fait, le pouvoir politique est fort, mais la rue est forte. Et cette dualité entre le pouvoir de la rue qui a mis Roménie au pouvoir et Roménie lui-même, ou ses successeurs, reste toujours en place aujourd'hui. Cette révolution n'a pas été aussi violente qu'on le dit. Il y a eu des morts, beaucoup de morts, c'était dramatique, j'étais témoin de ces exécutions ici et là. Mais au total, ce qu'il faut bien voir, c'est que les partisans du Shah étaient partis. Le Shah était le plus courageux finalement, c'est le dernier à avoir quitté le navire. L'armée était partie, les généraux étaient partis, les ministres étaient partis. Et donc, la prise du pouvoir était assez facile finalement. Mais aujourd'hui, on a effectivement un pouvoir qui est à la fois celui de ces gens qui ont fait la révolution, c'est la bourgeoisie moyenne, qui était citadin, alphabétisé, jeune, qui voulait la mondialisation, qui voulait vivre au XXe siècle et aujourd'hui au XXIe. Ils sont toujours là aujourd'hui en Iran. Et de l'autre côté, il y a effectivement un pouvoir politique qui n'a pas su trop évoluer et qui est enfermé dans cet héritage un peu complexe entre un héritage libéral, tiers-mondiste, de gauche, communiste et évidemment religieux. Et ce mariage est assez difficile à faire.
Une révolution toujours en place, qui s'est même consolidée avec les épreuves, notamment la guerre contre l'Irak, et qui même aujourd'hui est devenue une grande puissance avec la possibilité d'avoir l'arme nucléaire et ces derniers jours d'avoir même des missiles pour pouvoir la porter jusque très loin des frontières de l'Iran.
Tout à fait. Je crois qu'on n'a pas pris la révolution iranienne au sérieux. Il faut la prendre au sérieux. Elle a bougé le Moyen-Orient. Et elle a fait que l'Iran est aujourd'hui une puissance incontournable et a donné une dimension nouvelle à l'Iran. Le Shah n'avait pas la capacité de le faire. La révolution islamique, de façon paradoxale, a mis en place les Iraniens modernes et les Iraniens d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'Iran se trouve effectivement un pays incontournable qu'il faut prendre au sérieux.
Merci Bernard Ourcade. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Jean-Pierre Digard et Yann Richard, d'un livre de référence, L'Iran au XXe siècle, qui a été réédité chez Fayard en 2007. À lire également le numéro spécial des collections de l'Histoire, intitulé « De la Perse à l'Iran, de Cyrus à Ahmadinejad », actuellement en kiosque. 1979, guerre secrète au Moyen-Orient, d'Yvonique de Noël, publié chez Nouveau Monde Édition, et L'Iran, l'heure du choix, de Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran, un livre d'entretien, avec Michel Taubman, publié chez de Noël. Reza Pahlavi, d'ailleurs, qui sera l'invité de Et pourtant elle tourne, de Bruno Duvic, aujourd'hui à 18h15 sur France Inter. A voir enfin la journée spéciale Iran sur Arte, après-demain 11 février de 10h à 0h30, une programmation qui mêle films, magazines et documentaires, notamment un excellent documentaire, Iran, une puissance dévoilée, de Jean-Michel Vecchier, qui sera diffusé à 20h45 et dont vous avez pu entendre un extrait. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique, Michel Béziquian et Éric Morin. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier et Clarisse Le Gardien. Une réalisation de Anne Kobilac.